Je dis souvent que je n'ai pas de maison. Ma vraie maison, c'est à côté de quelqu'un qui conduit, parce que je ne sais pas conduire. On part avec la voiture, au hasard Balthazar, avec la fenêtre à côté ouverte, le paysage qui défile. Et ça, c'est ma place préférée, c'est ma maison. Donc le voyage, c'est pas aller quelque part, c'est partir.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary. Bonjour, ces paroles du cinéaste grec Théo Angelopoulos résument assez bien le voyage que nous allons faire cette semaine. À travers la Méditerranée, de l'Adriatique à la mer Égée, de celle de Marmara jusqu'à la mer Noire, là où se mêlent les eaux. Là où se mêlent les eaux, c'est aussi le nom d'un récit de voyage paru en 2018 en France, aux éditions La Découverte, et écrit à quatre mains par Laurent Gélin et Jean-Arnaud Desreins. Deux journalistes habitués à sillonner les Balkans et qu'on imagine bien, eux aussi, comme Angelopoulos, fenêtres ouvertes en voiture, clope au bec et silence radio. Pour ceux qui écoutent la nôtre de radio RFI, vous avez dû d'ailleurs déjà les entendre documenter ces confins de l'Europe, trop souvent méconnus et négligés. Mais cette fois, ce n'est pas dans les terres ou en voiture qu'ils nous emmènent, c'est en bateau, de port en port, pour un cabotage au long cours, jusque dans le Caucase, loin des soubresauts de l'actualité. Et dans leur récit, il n'y a pas que les eaux qui se mêlent. On y croise en effet la frêle silhouette de leurs voiliers et celle massive des bateaux de croisière à touristes sur les côtes de Dalmatie, là où se mêlent dieux grecs et migrants afghans. Ombre du Tito et d'Ulysse, empire déchu et nation fragile, drapeau rouge et brun, vent de la Bora et du Meltem. Chemin faisant, il dessine alors les contours sensibles de ce vaste coin du monde, où tout se mêle, se mélange, dans une vibrante ode au voyage, où ce qui compte, surtout, c'est de partir.
Les quais de Crotone sont déserts. Un haut mur d'enceinte protège le bassin de l'assaut du vent et des vagues de la mer Ionienne. Quelques rafiots achèvent de rouiller, des grues de levage sont figées dans la tente de cargo. Un vrac qui est turc découpe le ciel bleu. La coque et les tourelles portent les traces d'un incendie. La peinture rouge s'écaille, mais le nom du bâtiment est encore visible. Genghis Khan, le conquérant mongol de la steppe eurasienne qui fit trembler l'Europe, bloqué dans ce port de Calabre. Quelques retraités bricolent des barques. Les pêcheurs, de l'autre côté du bassin, ont pris la mer avant l'aube. Au matin, d'étranges silhouettes montent et descendent du Genghis Khan, esquissant un salut d'un signe de tête lorsqu'elles passent devant le véton. Sandales, fripes bon marché, sac en plastique à la main, une quinzaine de clandestins squattent l'épave. Des Kurdes, des Afghans et des Iraniens. Il nous a fallu 3 jours et 2 nuits de mer pour gagner Crotone, passant au large de Gozo et du Cap Passero, à la pointe sud-est de la Sicile. Nous sommes 7 à bord du Véton, un voilier de 17 mètres qui dormait dans une marina de Monastir, en Tunisie. 2 journalistes, 2 marins et 3 amis qui nous quitteront dans quelques semaines. Nous voulons remonter l'Adriatique, redescendre en mer Ionienne, arpenter l'Égée jusqu'aux Dardanelles, gagner enfin Istanbul et passer de l'autre côté du Bosphore, caboter au long des rivages souvent familiers pour relier entre eux les points de carte mentale, parcellaires, morcelés. Nous avons la croyance que la mer lavera nos yeux, nous donnera le regard neuf qui permet de raconter de nouvelles histoires.
Jean-Arnaud Desreins, Laurent Gélin, bonjour.
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 Alors on est ravis de vous recevoir dans nos studios, sachant que pour vous, Jean-Arnaud Desreins, vous n'y êtes pas tout à fait, puisque vous êtes en duplex depuis France Bleu Brézizel, à Quimper, en Bretagne. C'est votre autre maison quand vous n'êtes pas en voyage dans les Balkans. Alors on vient de l'entendre dans cette mise en onde des premières lignes de votre livre, Là où se mêlent les eaux. Pour votre voyage, au départ donc de Crotone, sous le pied de la botte italienne, vous avez choisi de vous dépouiller de vos habits de journaliste pour endosser ceux de marin, de voyageur. Pourquoi ce choix, Laurent Gélin ?
Alors, je ne sais pas si on s'est dépouillé de nos habits de journalistes, parce qu'on reste malgré tout toujours un peu des journalistes. Après, on a choisi de faire ce reportage et ces découvertes en utilisant la voile et le bateau, ce qui implique, je dirais, une autre relation aux gens. Quand on arrive dans un port, c'est vrai qu'on est tout d'abord un marin, on est beaucoup moins un journaliste qu'un marin qui arrive au matin ou au soir après avoir navigué des jours parfois. Et on obtient et on établit des relations avec les gens beaucoup plus directes peut-être que si on était journaliste. On établit des contacts peut-être plus faciles ou plus immédiats. Et c'était pour nous, je crois, une autre façon d'aborder notre métier, peut-être avec un rythme plus lent, plus serein, en étant beaucoup plus dépendant des éléments, de la navigation, des vents, etc. Donc se détacher, je dirais, de l'actualité immédiate et du besoin d'aller vite, un besoin que l'on a régulièrement quand on est journaliste. Et nous, au contraire, on voulait essayer voilà, de prendre le temps et puis de laisser la navigation nous porter.
Et en même temps, ce temps, vous le prenez déjà quand même, je pense déjà dans le Courrier des Balkans, qui est un portail d'informations francophones sur l'actualité des Balkans, que vous avez contribué à créer en 98, Jean-Arnaud Deyrens, et que vous avez rejoint, vous, Laurent, en 2005. Vous le prenez quand même déjà ce temps?
Oui, bien sûr. Enfin, oui et non. Le Courrier des Balkans, pour parler de lui, c'est un site d'information, donc on est effectivement contraint effectivement par l'actualité, par le besoin de d'écrire les choses et d'essayer de les analyser au fur et à mesure qu'elles se produisent. Que, comme le disait Laurent, non, faire ce choix de la navigation, c'est déjà choisir un mode de locomotion qui est lent et puis surtout se rendre totalement et délibérément tributaire de toute une série de facteurs qui ne vont pas dépendre de nous, de la navigation, de la mer, des vents. Et puis quand on arrive dans un port, de la chance ou de la malchance des rencontres. Quand on arrive dans un port après avoir navigué toute la nuit, on a pour le coup pas beaucoup de temps parce qu'on sait qu'il va falloir repartir parce qu'il y a une météo qui va nous contraindre, nous obliger de repartir au bout de 24 heures ou de 48 heures. Et cette météo se contrefiche totalement du sujet qu'on a envie de traiter, de l'histoire qu'on a envie de raconter. Le vent ne nous pose jamais, ne nous demande jamais notre avis sur ce qu'il va faire. Et donc voilà, on a ces contraintes qui nous échappent totalement et il faut ensuite avoir de la chance de rencontrer la bonne personne avec qui il y a un regard qui va s'échanger, avec qui on va avoir envie de parler, quelle que soit la langue utilisée, une langue qu'on maîtrise plus ou moins bien, ça dépend des endroits, ou bien la lingua franca des gestes et des sourires de l'Adriatique et de la Méditerranée. Enfin, on trouve toujours moyen de se comprendre et de se faire comprendre. Mais il faut cette chance qui est très importante. Quand vous partez faire un reportage, vous pouvez pas revenir dans votre rédaction et dire, voilà, le vent était pas avec moi et puis j'ai pas eu de chance. Ça marche pas. Là, on s'est offert, on a fait le choix de s'offrir ce luxe de se dépouiller effectivement de toute espèce de contrainte, de se rendre tributaire de choses qui nous échappent avec cette idée qui était la nôtre, qu'effectivement, ces contraintes et puis la mer elle-même puissent laver notre regard. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a en tout cas le sentiment d'être, sans faire de lyrisme et sans excès, de changer radicalement notre manière de travailler, ce qui était un petit peu le but qu'on recherchait.
Alors à Crotone, en Italie, d'où vous êtes parti, on l'a entendu, vous croisez des migrants. Et c'est vrai que dans ces lisières, ces côtes, vous en croisez souvent, des réfugiés. C'est un premier mélange, j'ai envie de dire, Jean-Arnaud Deyrens, entre ceux qui choisissent de voyager, vous, et ceux qui n'ont pas d'autre choix.
Bien sûr, alors cette question des migrants, des réfugiés, on ne pensait pas qu'elle allait être aussi omniprésente. Et en réalité, dès les premières personnes qu'on est rencontrées un matin sur ce quai de Crotone et à qui on est dit « voilà, on est parti pour faire le tour de l'Adriatique, de la mer Égée et de la mer Noire », c'est des gens qui étaient eux-mêmes arrivés d'Afghanistan. C'est les premières personnes à qui on est parlé de ce projet une fois qu'il soit commencé, au moment où on était dans l'action de le réaliser. Et après, partout, on a croisé ceux de migrants ou de réfugiés, de migrants d'aujourd'hui, ou de gens qui vivent sur ces côtes, de Grèce, de Turquie, de la mer Noire ou d'ailleurs, mais qui sont eux-mêmes les héritiers d'un exode plus ou moins lointain. À Crotone, on y était allé pour aller voir les Arbëresh. Les Arbëresh, ce sont des Albanais qui ont fui la conquête ottomane des Balkans au 15e, 16e siècle. Et depuis donc 4-5 siècles, César Berège vit dans le sud de l'Albanie et leur identité, c'est d'être des Albanais du sud de l'Italie issus d'un exode. Cet exode, il est fondateur dans leur identité collective. Et toutes ces côtes de la Méditerranée, c'est un palimpseste de migration, d'exil, d'exode plus ou moins anciens, les exilés d'un jour, d'hier, accueillant ceux d'aujourd'hui. Et bien évidemment, dans tout cela, nous avons fait un voyage choisi. Et ce qui nous a été en permanence rappelé, c'est que si les hommes naviguent depuis des millénaires, notamment en Méditerranée, mais sur toutes les mers, les hommes naviguent partout, l'immense majorité de ces voyages, de ces navigations, n'ont pas été des navigations de plaisir ou de plaisance, mais des voyages contraints, des fuites.
C'est ce qu'on va voir justement en vous suivant. Donc, au départ de Crotone, vous décidez de remonter la mer Adriatique jusqu'à Trieste, à la pointe nord-est de l'Italie. Une noble cité maritime et cosmopolite, longtemps autrichienne, battue par les vents et prisée des écrivains. Parmi eux, Paolo Rumise, un enfant de la ville. En 2015, l'écrivain nomade italien a posé ses valises dans nos studios à l'occasion d'un voyage immobile qu'il avait fait depuis un phare perdu en Méditerranée.
Je suis à Trieste. Hein. C'était pas la mer qui m'attirait. Moi, j'ai vécu dans une ville de mer. Mais pour moi, la vraie frontière de l'aventure, c'était la ligne du rideau de fer. J'étais à 10 km de la vieille Yougoslavie communiste. Donc, il y avait toujours l'image d'un pays complètement différent, comme régime, comme idée politique, comme mœurs, comme chanson, comme femme, comme humanité, comme anthropologie. Et pour moi, la frontière était importante pour l'imagination du voyage. La mer, c'est une découverte assez récente dans ma vie. J'adore les noms Mare Nostrum, latin, qui ne veut pas dire que la mer est à nous. Ça veut dire que la mer est à tous ceux qui vivent sur ses rivages. C'est la mer commune. Aujourd'hui, personne ne raconte plus et personne ne n'écoute plus. Donc mon premier devoir, c'est d'écouter. D'écouter la voix des lieux du silence. Les lieux qui n'ont pas une voix. Les lieux qui ne sont pas écoutés par les institutions, par les politiciens, comme ça. Donc... souvent, je me rends compte de faire un travail politique, de créer des réseaux, de faire parler les gens entre eux.
Mais le voyage, relier les territoires, c'est politique?
Oui, oui, absolument. Le voyage en lenteur, c'est ce que le politicien devrait faire pour comprendre leur pays. Ils ne savent rien.
Laurent Gélin, voyager en lenteur et faire parler les lieux qui ne sont pas écoutés, c'est exactement finalement ce que vous avez fait durant votre voyage. Ce que Jean Arnaud parlait des Arbëreshë d'Italie, ces Albanais. À Trieste aussi, vous êtes allé à la rencontre des Slovènes de la ville, un autre mélange.
Oui, la minorité slovène de Trieste est à la fois très peu connue, très discrète. Ce sont des gens qui n'affichent pas leur identité, compte tenu de l'histoire tourmentée du dernier siècle et des batailles croisées qui se sont déroulées entre, d'un côté, la Yougoslavie, de l'autre côté, l'Italie. Et les Slovènes, comme beaucoup de petits peuples, se sont souvent retrouvés coincés entre ces luttes d'influence. Et à Trieste, il faut effectivement prendre du temps.
Aller les chercher, ce que vous êtes allé faire justement dans les hauteurs.
Tout à fait, les Slovènes sont installés dans les hauteurs qui surplombent la ville et ont installé toute une série de petits restaurants, de trattoria, etc.
Sachant qu'il y a des écoles qui enseignent le slovène, il y a des associations, des clubs sportifs.
Tout à fait, c'est une vie parallèle, mais je dirais que ça peut... Les Slovènes de Trieste illustrent finalement le secret qui plane sur cette ville, où on a à la fois cette architecture austro-hongroise assez magnificente, assez imposante, et puis à la fois on sent que Trieste est une ville, on le dit dans le livre, qui pue le secret, c'est-à-dire qui se cache dans les arrière-cours, dans les recoins, dans les petites truelle. Et donc, finalement, les Slovènes de Trieste illustrent parfaitement, je dirais, la mentalité qui peut planer sur cette ville.
Alors à un moment aussi, Paolo Rumiz parlait de ce qui fascine, ce qui l'a fasciné, et de ce qui sépare aussi, ce sont les frontières, et de ce qui relie la mer. Jean-Arnaud Desreins, vous avez 50 ans, et vous avez grandi avec ce rideau de fer, cette fameuse frontière à la fois symbolique et bien réelle, entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est. 1989, en juin, première entaille en Hongrie, et à la chute du mur à Berlin en novembre 89, vous aviez quoi, 20 ans ? Est-ce que c'est ça qui a nourri votre passion d'aller sans cesse à l'Est, d'interroger cette autre Europe ?
Alors écoutez, moi j'ai découvert la Yougoslavie pour le coup, quand c'était encore la Yougoslavie, quand j'avais 19 ans, avant l'éclatement. Oui, bien sûr, il y avait une forte curiosité. J'ai envie de dire que ce qui me fascine le plus, pour le coup, c'est... Je ne vais pas être comme Paolo Rumiz. C'est vrai que Rumiz a grandi, lui, juste à côté de la frontière. Moi, ce qui me fascine le plus, peut-être parce que je suis né, moi, dans une grande île, la Grande-Bretagne, c'est le phénomène du littoral. Et j'ai besoin d'être toujours, pour me repérer dans l'espace, pour savoir où je suis, pour me repérer sur une carte, j'ai besoin d'être près d'un trait de côte, près d'un littoral. Pour ça, l'île, c'est pour moi un espace qui, par définition, est rassurant. Alors qu'au contraire, les grandes plaines céréalières d'Ukraine ou de Russie, ou même des plaines plus petites comme celle de Voïvodine dans le nord de la Serbie, ou la Pusta hongroise, sont des endroits qui me fascinent, mais qui me font peur, où j'ai l'impression de me noyer. Dès qu'il y a la mer, il y a une côte, forcément, forcément. On ne la voit pas toujours, bien sûr, mais il y a forcément quelque part une côte, et la présence de cette côte est extrêmement rassurante. S'il y a pour moi un endroit qui symboliserait cette dialectique de la mer et du point d'ancrage humain, c'est probablement le phare auquel Paolo Rumiz a consacré son livre, qui est au milieu de l'Adriatique, ça je crois qu'on peut le dire jusque-là. Il y a un endroit où il n'y a pas de terre en vue. Mais par contre, il y a des hommes qui vivent sur ce petit microscopique îlot, aujourd'hui et depuis probablement le néolithique. Ça montre bien comment la mer, et surtout bien sûr ces mers fermées comme la Méditerranée, sont des espaces qui sont très profondément humanisés depuis toujours.
Et alors vous, Laurent Gélin, vous avez 40 ans environ, vous êtes plutôt un enfant de cette nouvelle Europe, de cette promesse en tout cas, d'une nouvelle Europe.
Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle que les premières images d'actualité qui m'ont interpellé, ou dont je me souviens, à la fois, il y a la chute de Ceaușescu en Roumanie, et puis la chute du mur, finalement, m'est passée un peu au-dessus de la tête, je m'en rappelle pas très bien. Et après, c'est la guerre de Bosnie. Réellement, les premières images qui me marquent, c'est ces images de bombardement sur Sarajevo, ces camps de concentration installés en Bosnie. Et je pense que la fascination pour l'Europe de l'Est que j'ai et que j'entretiens depuis une quinzaine d'années vient de ces images originelles, et sûrement aussi l'intérêt et la passion pour le métier de journaliste. Comprendre un peu ces identités multiples dans un pays comme la France, où tout est centralisé, où l'identité doit être à la fois unique et citoyenne. C'est vrai que ces espaces où les religions, les langues, les histoires, les mémoires collectives se croisent, voilà, pour moi c'est une richesse tout à fait exceptionnelle. Et le fait de voyager dans ces régions, je pense, permet aussi de mieux comprendre son propre pays, à savoir la France, et de gratter un peu sous l'identité glacée qu'on veut bien nous proposer, et de comprendre que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça.
Alors pour revenir à votre voyage à bord du Veton, on est avec vous très loin de l'image de carte postale, de la côte adriatique et de ces îles de rêve croates par exemple, si chères aux touristes. Avec vous, on croise plutôt la déglingue post-yougoslave, dans un contexte, vous écrivez, de pillage systématique des ressources publiques. Alors par exemple, pêle-mêle, un village sans cimetière, des marins monténégrins ou croates aussi, spoliés et sans navire. Comme Milorad, un vieil officier radio monténégrin, ou Ivo, le syndicaliste, Jean-Arnaud Desreins.
Bah, écoutez, oui, sur tous ces rivages de l'ancienne Yougoslavie, il y avait une tradition maritime très très ancienne, très forte, une tradition maritime pour le coup qui remonte très largement à Venise. Les constructeurs de bateaux, les calfas, les galériens, les marins, les navigateurs de Venise étaient des gens qui venaient de toutes les rives de l'Adriatique et notamment des rivages aujourd'hui croates ou monténégrins. Donc il y a une très vieille tradition de construire des bateaux, de naviguer. Et puis à l'époque plus récente, à l'époque de la Yougoslavie socialiste, il y avait effectivement des grands chantiers navals, des grandes compagnies de navigation. Toutes ces compagnies de navigation ont été sabordées lors de l'éclatement de la Yougoslavie. Là, donc on rencontre ces marins sur les quais de Šibenik en Croatie ou de Kotor au Monténégro, ces marins retraités qui sont des marins sans bateau, qui vivent dans les souvenirs de la Prekookeanska plovidba Kotor, la compagnie transocéanique de Kotor, ou la compagnie équivalente de Šibenik en Croatie, mais des compagnies qui toutes ont arrêté de fonctionner, qui ont été volés, privatisés par des malfrats au début des années 90 du siècle dernier. Et puis les chantiers navals, qui étaient une grande tradition industrielle croate, sont également en train de disparaître. Cet automne, là, 2018, il y avait, je dirais, des grandes grèves dans les chantiers de Pula, notamment, mais qui ressemblaient un petit peu à un chant du cygne d'une tradition ouvrière qui, pour le coup, s'inscrit aussi dans l'histoire de l'Autriche-Hongrie, puisque c'était Trieste et des ports comme Pula, c'était les débouchés maritimes de l'Autriche-Hongrie. Donc ces chantiers qui s'inscrivent dans beaucoup d'histoires européennes, c'est des histoires qui sont en train de se terminer, malheureusement, pour laisser la place à ce qui reste. Et ce qui reste, c'est largement des marinas, donc une mer transformée en parc de loisirs, ce qui n'est pas illégitime en soi, mais ce qui n'est qu'un des aspects, qu'un des visages possibles de cette mer, et qui en tout cas ne permettra pas aux riverains de ces mers de vivre dans leur pays, parce que une marina, ça emploie pas grand monde, beaucoup moins de monde qu'un chantier. Dire qu'on va remplacer des chantiers navals par du tourisme, ça c'est une arnaquerie, enfin n'importe qui peut le comprendre. On n'est pas du tout sur les mêmes logiques économiques, les mêmes logiques d'emploi, c'est une évidence partout dans le monde. Ce qui se passe sur les mers, c'est à la fois du micro-local et de l'archi-global, parce que si vous construisez un bateau à Šibenik, vous tenez compte. Quand vous construisez, quand vous clouez deux planches, vous devez tenir compte des cours de la construction navale en Corée du Sud. Tout est totalement interconnecté. C'est même pas ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. C'est par définition. La mer, elle est à l'échelle de l'horizon de communication d'une civilisation. Donc, on est toujours dans cette articulation. Et ces types qui pêchent là, c'est ce Milorad qui pêche sur le quai à Kotor, qui est un vieux retraité, c'est effectivement, comme plein de vieux retraités sur les quais de plein de ports dans le monde, quelqu'un qui a navigué sur toutes les mers du monde, qui a vu toutes les aurores et tous les couchers de soleil sur tous les océans, bien évidemment, mais qui après reste là à pêcher en remâchant ses souvenirs. Mais ça, on peut en trouver un petit peu partout, des Milorad.
Et alors, en parlant de souvenirs, l'ombre du maréchal Tito n'est pas loin non plus dans votre voyage. Comme sur l'île de Goliotok, une île croate, jadis bagne et prison politique de Tito, désormais proie des pilleurs et objet aussi de curiosité touristique, la légende veut que ce soit là que Šaban Bajramović, surnommé par certains le Frank Sinatra des Roms, a commencé la musique. On l'écoute tout de suite sur RFI. Le voyage continue sur RFI, des Balkans au Caucase, toujours en compagnie de Jean-Arnaud Derain, c'est Laurent Gélin. Et avec eux, après avoir longé les côtes bétonnées de l'Albanie, émaillées de pas moins de 700 000 bunkers au temps du dictateur Enver Hoxha, on va plonger en mer ionienne, puis Égée, le long des côtes grecques. Alors à l'époque de votre voyage, la Grèce était déjà un pays rongé par la crise, puisque vous avez voyagé en 2010, c'est ça ? Cet improbable pays, vous écrivez, qui a perdu depuis des siècles la maîtrise de son destin. Parce qu'elle a des rêves trop grands pour ne pas être déçue. Est-ce que vous faites référence, Jean-Arnaud Derain, à cette fameuse grande idée, comme on l'a appelée ?
Bien sûr, la grande idée, la mégalie idéa, c'était celle de réunir toutes les terres peuplées par des Grecs, notamment les terres de Mikrasia, d'Asie mineure, qui sont aujourd'hui en Turquie, et puis aussi les communautés grecques des rivages pontiques, c'est-à-dire de la mer Noire. Cette grande idée s'est terminée dans la catastrophe de la guerre de 1922 et des traités de Lausanne en 1923, avec des déplacements de population et énormément de souffrances. Je pense que la tragédie de la Grèce, c'est pas seulement sa tragédie à elle, sa tragédie d'avoir nourri ce type de rêve, c'est qu'en permanence, les Occidentaux ont plaqué sur elle,
projeté
leurs propres rêves, leurs propres fantasmes, ceux de la Grèce antique, et bien évidemment, les Grecs du 19e siècle ou ceux du 21e siècle sont très fiers de ce passé, mais non, c'est pas des descendants directs de Patrocle ou d'Achille. Enfin, je veux dire, bien évidemment, si on aborde des gens à partir de ce type de stéréotype, d'idéal type, on est obligé, on se condamne en permanence à la déception. Et le contraste entre les rêves et la réalité, ça fait toujours rire, effectivement, les pharmaciens de campagne, les monsieur Homais, mais ça c'est une vérité éternelle.
Laurent Gélin ?
Oui, d'ailleurs il y a des allers-retours sémantiques assez intéressants. Avant 2010, la Grèce était dans l'Union Européenne, c'est-à-dire dans les journaux, dans les médias, dans l'opinion publique, la Grèce faisait partie de l'Union Européenne. Après cette crise de 2010, on a de plus en plus souvent entendu que la Grèce finalement était en quelque sorte revenue dans les Balkans. Quand on parle de Balkans, on parle aussi de balkanisation, et en français c'est un terme péjoratif qui veut dire éclatement, division, guerre, etc. Et à partir de 2010, eh bien, dans les articles des médias ou dans, je dirais, les conversations de tous les jours, on a soudain découvert que la Grèce était revenu dans les Balkans. Alors, les termes géographiques sont toujours subjectifs. On peut les plaquer ou les utiliser comme on veut. Et là, c'est un exemple très significatif de ces allers-retours, sémantiques entre ces deux termes.
Excusez-moi, d'une géographie de la projection, d'une géographie de l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas eu de glissement des plaques tectoniques. La Grèce est toujours au même endroit, il faut quand même le rappeler.
Alors, dans ce grand dessin d'unification des peuples grecs, à chaque fois, les Grecs se sont opposés à un adversaire principal, un obstacle de taille à cette grande idée, c'est l'Empire ottoman, puis la Turquie. Et c'est vrai que dans votre ouvrage, on saisit bien à quel point les peuples, les populations des deux rives sont ballottées au gré de ces conflits gréco-turcs et au-delà, bien sûr. Vous écrivez d'ailleurs qu'ils sont les pare-battages, pour filer la métaphore marine, des relations entre les deux États. Retour à Smyrne, 1922 et ses suites, ce qu'on va appeler la grande catastrophe.
Moi, je suis grecque, mais ma famille vient de Izmir, de Smyrna. Et je suis troisième génération de réfugiés de Smyrna. C'est en 1922. Et Smyrna était brûlée et tout le monde était dans le quai, les bateaux ne prenaient pas de choses, seulement des personnes, oui. Alors j'ai une histoire comme ça de ma grand-mère, Vassilia, elle était une orphane et il y avait une singer machine. Singer machine.
Vous voulez parler en anglais?
Oui, oui, oui. Okay. Merci. She was an orphan, my grandmother, and there were two aunts.
Donc, ma grand-mère était orpheline, mais elle avait deux tantes qui faisaient de la couture sur une machine à coudre Singer. Elles gagnaient leur vie comme ça à Smyrne. Mais un jour, en 1922, des voisins sont venus leur dire « Vous devez vous enfuir tout de suite !» parce que les soldats turcs pillaient et brûlaient les maisons.
Qui attaquaient les Grecs.
Yes,
oui.
Aussi les Arméniennes. So they...
Donc elles sont parties dans l'urgence avec un petit baluchon en tissu. À l'intérieur, il y avait la machine à coudre et deux icônes religieuses. Elles ont pris très peu de choses et elles sont allées au port. Là, elles ont embarqué pour Thessalonique en Grèce. Ces témoignages, ces histoires de gens qui ont souffert, qui ont fui en bateau, en laissant tout derrière eux, personne ne les connaît.
Oh. En 2018, à Si loin, si proche, avec Camille Lafrance, on avait voyagé à la rencontre des Roums, une toute petite communauté grecque et orthodoxe qui survit sur les rives du Bosphore à Istanbul. Et Vassiliki, papa Georgiou, artiste grec et Roum qu'on vient d'entendre, vient d'évoquer les événements 1922 à Smyrne, aujourd'hui Izmir en Turquie, une ancienne cité cosmopolite en proie aux flammes et aux massacres, à l'issue de la guerre gréco-turque. Vous, Laurent Gélin, c'est à Chios, sur une île grecque, non loin justement des côtes turques et d'Izmir, que vous retrouvez cette histoire auprès de réfugiés d'Asie mineure et d'une sous-préfète aussi très dynamique et francophone, Apostolia Likou. C'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est le genre de rencontre qui nous fait du bien et qui nous ouvre les portes quand on a la chance de les aborder. La préfète nous a accueillis tout de suite en parlant un français parfait et nous a ouvert les portes à la fois des administrations de l'île et surtout du camp de rétention qui est installé sur l'île de Chios, un camp qui accueille depuis 2010 et même avant les réfugiés qui traversent en bateau le bras de mer de quelques milles qui sépare la Turquie et l'île de Chios. Et ce camp est théoriquement interdit aux journalistes. Et grâce à la préfète et à quelques verres de whisky savamment distillés avec le directeur du camp, on a pu entrer dans le camp de rétention de Chios et finalement dresser un parallèle entre ces migrations récentes, ces gens qui fuient les conflits en Syrie, en Irak, et puis les Grecs qui avaient fui 3 ou 4 générations avant la chute de Smyrne en 1922 et la guerre entre l'Empire ottoman déclinant et la Grèce. Donc c'est toujours ces allers-retours migratoires qui nous semblaient intéressants et qui nous semblaient frappants de ces générations qui ont voyagé il y a maintenant environ 100 ans et puis de ces migrants aujourd'hui qui continuent de fuir et puis en l'occurrence de trouver un refuge sur ces îles grecques. On a eu la chance aussi de rencontrer sans doute l'une des dernières survivantes du massacre de Smyrne, une dame qui avait 2 ou 3 ans à l'époque du massacre, qui a réussi à s'enfuir avec ses parents et qui est installée depuis dans l'île de Chios. Et c'est ce genre de voix rare qu'on a eu la chance de retrouver sur cette île.
Jean-Arnaud Derrins, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, effectivement, je pensais à cette vieille dame, j'essayais de me souvenir de son nom, mais j'avoue qu'il m'échappe. C'est vrai qu'on a été accueillis dans le quartier du Pharos, qui est à côté de la ville principale de Chios, l'endroit où se sont installés tous ces gens de Smyrne, et qui racontent qu'eux-mêmes ont été accueillis dans les années 20 du siècle dernier comme des réfugiés. Et les réfugiés, souvent, on a toujours tendance à penser qu'on n'a pas besoin d'eux, qui vont venir manger notre pain, prendre notre travail, occuper le terrain qu'on convoite, même si c'est des compatriotes. En l'occurrence, c'était des Grecs sur l'île de Chios qui accueillaient des réfugiés grecs qui venaient de quelques milles nautiques plus loin, parce que Chios est tout près de la côte turque, mais peu importe.
Sachant que c'était dans un contexte aussi d'accord et d'échanges, de grands échanges de populations entre les Turcs et les Grecs. Il y avait des fuites et puis il y a eu aussi des exils forcés, toute une campagne mise en place à l'époque.
Alors il y a les gens qui ont dû fuir Smyrne dans des conditions extrêmement tragiques. Il faut quand même rappeler que la ville était mise à sac et que les bateaux internationaux, notamment les bateaux français ou italiens de guerre, avaient pour consigne de ne pas prendre à bord des réfugiés car ces bateaux militaires devaient rester neutres. Smyrne, c'est un petit peu, enfin je crois qu'on l'écrit
c'est
comme
ce que
ça
vous écrivez justement.
Oui, c'est un peu le prototype de pas mal des guerres qui vont venir tout au long du 20e siècle, des guerres et des
couloirs
et de la
humanitaires
gestion,
ou des principes de
la gestion
neutralité.
Humanitaire, voilà, de tout ce genre de choses, souvent assez peu ragoûtantes. Et puis il y a aussi effectivement ces échanges de populations négociés, garantis par le traité de Lausanne.
Là, de 1923
1923, donc qui solde ce processus de guerre. Et ces traités de Lausanne ont aussi garanti le statut très particulier de ce qu'on appelle la minorité musulmane de trace occidentale. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils peuvent être turcs, pomacs, roms, mais leur statut collectif est d'être musulmans dans cette partie du nord de la Grèce depuis les accords de Lausanne. C'est un avocat issu de la minorité musulmane de trace occidentale, Aksanti, et il disait « Nous, les musulmans de Grèce, ou eux, les derniers Grecs de Turquie, nous sommes les parbatages. » Les parbatages, c'est ces gros boudins qu'on met sur le flanc des bateaux pour qu'ils ne heurtent pas le quai. Et on est comme ça compressés en fonction de l'évolution des relations gréco-turques. C'est ce que nous disait cet avocat après, je dois l'avouer, une longue nuit d'errance de bar en bar dans cette ville de Aksanti.
Et dans ce contexte du grand échange dans les années 20, une musique va émerger des bas-fonds d'Athènes parmi les exilés grecs d'Anatolie, c'est le rebetiko. Ce blues de la mer Égée, certains artistes en Turquie aujourd'hui le revisitent afin d'honorer aussi ce que les cultures grecques et turques ont en commun. C'est le cas de Şikdem Aslan, une artiste née à Istanbul. Tout de suite, c'est Zahira sur RFI.
Ζάιρα, θα έρθω να σε κλέψω κάποια βράδια απ' την αγκαλιά του μαχαράγια. Σβήνω απ' τον ποθό, μάλλον σαν σε νιώθω. Αχ, Ζάιρα μου γλυκιά. Σβήνω απ' τον ποθό, μάλλον σαν σε νιώθω. Αχ, Ζάιρα μου γλυκιά. Για λελελή, για λελελελή, για λελελή. Σβήνω απ' τον ποθό, μάλλον σαν σε νιώθω. Αχ, Ζάιρα μου γλυκιά.
En voyage, là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins, on est toujours avec Laurent Gélin et Jean-Arnaud Dérin. C'est avec vous, on va passer le détroit des Dardanelles jusqu'à Istanbul, Constantinople, cette Babel du Levant, comme disait Pierre Loti, pour plonger très vite en mer Noire. Alors c'est là que s'achève, Laurent Gélin, une première partie finalement de votre voyage, puisque vous quittez votre bateau.
Oui, c'était pas un choix qu'on a fait, ça a été dicté par la contrainte, je dirais, avant tout la contrainte financière. On n'avait plus assez de moyens pour assurer à la fois l'essence, les frais de port, etc. Donc on a décidé de quitter le véton qui était notre voilier et puis de continuer par tous les moyens possibles et imaginables, tout en essayant de jamais quitter des
la
yeux
côte.
Le trait de côte. Alors on ne l'a pas toujours respecté dans le Caucase. On s'est enfoncé dans les plaines du sud de la Russie et sur les contreforts du Caucase pour rentrer un peu plus dans les terres. Mais je dirais que c'était des incursions qui nous ont permis de retrouver assez vite la mer malgré tout.
Et donc c'est en ferry, en voiture, en bus que vous allez continuer de longer ces côtes de la mer Noire. Et là aussi en Turquie, vous nous offrez une infinie, on va dire, galerie de personnages, entre hier et aujourd'hui, tels des fragments de la grande histoire, à la rencontre aussi de minorités oubliées, à l'image évidemment de ces terres où tout se mêle, et pas que les eaux. Déjà en Italie, vous l'avez dit, Jean-Arnaud Dérin, on a croisé les Arbereches. Et puis là en Turquie, il y a les Zamchens, non loin de Trabzon, une population d'origine arménienne convertie à l'islam entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Est-ce que je ne me trompe pas, Jean-Arnaud Dérin ? C'est bien
ça ? Non, tout à fait, tout à fait. C'est a priori cela, même si l'histoire des Hamshans demeure un petit peu mystérieuse, mais en tout cas, ce sont des gens qui, effectivement, sont de tradition, enfin, de souche, disons, caucasienne, arméno-caucasienne, et qui se sont convertis à une époque relativement récente à l'islam. Ça, c'est ce qui est à peu près certain, mais qui conservent des traditions culturelles particulières.
Païennes aussi
bien... Et païenne, bien évidemment, et païenne. Nous, on a découvert le pays des Hamshans un petit peu par hasard. On est tout près de la côte, après Trabzon, près de Rizeh, en avançant vers l'est, vers la frontière de la Géorgie. Et là, on savait pour le coup qu'il y avait dans cette région beaucoup de rivières sauvages qui se jetaient dans la mer et qui étaient toutes menacées par des projets de construction de mini-centrales hydroélectriques. Et qu'il y avait une forte mobilisation. Et on avait envie d'aller rencontrer ces gens-là. Et c'est comme ça, un peu par hasard, qu'on est arrivé sur une rivière, la Fırtına, près d'une bourgade qui s'appelle Çamlı Hemşin. Et là, on est rentré dans, je dirais, une autre... J'ai envie de dire qu'on est passé de l'autre côté d'un miroir sans teint marquant une chute, une rupture dans le paysage. On était très près de la mer, mais on est dans un tout autre monde. Un monde déjà qui est celui du Caucase, qui est celui de cet énorme système de montagnes qui va jusqu'au Taurus, jusqu'à toutes ces montagnes qui font le cœur de l'Anatolie également. Et là, on avait l'impression d'être, oui, au pied d'un monde, à la porte d'un monde qui nous était encore totalement inconnu, qui nous le reste très largement, parce que on s'est un petit peu frotté à ce monde-là. Et puis, pour le coup, soyons honnêtes, on est très vite revenu vers la côte, qui était notre point de référence, toujours.
Alors, il y a un autre monde aussi qui a beaucoup, peut paraître, ou être, très inconnu. C'est celui des Tcherkesses, que vous croisez une première fois en Turquie, à Samsun, et que vous retrouvez surtout dans le berceau de ce peuple, au-delà de Sotchi, de l'autre côté, donc, de la mer Noire, en Russie.
Le bus longe la mer Noire, puis remonte vers la steppe et le piémont du Grand Caucase. Il quitte les banlieues de Sotchi par les forêts de Mamaïka, parcourt en 10 heures les 300 km qui séparent la station balnéaire de Maïkop, la capitale de la République des Adygues. Des aires de pique-nique, des tombes abandonnées et des ex-photos en souvenir de ceux qui sont morts sur la route se succèdent au long de la chaussée. La poésie des noms de lieux suffit à déterminer bien des voyages. Nous devons passer par Gizildere, Haché, Tuapse, Dzoukha, des toponymes qui gardent le souvenir de la langue Oubouk, ce dialecte tcherkesse dont le dernier locuteur serait mort en 1992. La route suit le front de mer, traversant des villages abrutis par la torpeur de l'avant-saison. Les sanatoriums sont fermés, les rues sont vides, hormis quelques gamins qui tuent le temps en faisant des tours à vélo. Les rues de Maïkop, la capitale de la République autonome des Adygues, l'un des sujets de la Fédération de Russie, sont larges et désespérément vides, à toute heure du jour et de la nuit, même si 140 000 personnes sont officiellement recensées dans la ville. À la terrasse de l'hôtel, le temps s'étire dans un silence irréel. Les Adygues ne représentent guère que 15 à 20% de la population de la République qui porte leur nom. Quelques jeunes nous interpellent depuis le trottoir opposé. Les étrangers ne sont pas monnaie courante ici. Ils portent des t-shirts noirs affublés du slogan « Circassia is alive ».
Jean-Arnaud Desreins, on vient d'entendre un autre extrait de votre récit de voyage, Là où se mêlent les eaux, en quête cette fois des Tcherkesses, ou Adygues, en Russie. On les appelle aussi, on l'a entendu, les Circassiens, puisqu'ils ont sur leur t-shirt « Circassia is alive ». Qui sont-ils, ces Tcherkesses?
Alors, ce sont effectivement des populations caucasiennes qui ont été chassées lors de la conquête russe du Caucase, à la fin, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et tous ces Tcherkesses ou Circassiens se sont donc enfuis dans les territoires ottomans. Ils ont traversé la mer Noire. Beaucoup d'entre eux sont morts en traversant la mer Noire. Et puis, arrivés dans l'Empire ottoman, ils se sont répandus dans tout l'Empire. On sait que dans les années 1870-1880, des Tcherkesses errants se sont installés un petit peu partout, en Syrie, en Bulgarie, ou bien aussi au Kosovo. Et là, c'est un peu à cause de ces Tcherkesses du Kosovo qu'on s'est retrouvés à Maïkop, puisque l'on savait...
Donc là, côté russe.
Oui, côté russe, enfin en Russie, on savait qu'en 1998, les Tcherkesses installés au Kosovo étaient revenus sur la terre de leurs ancêtres, bénéficiant même d'un programme de la Fédération de Russie pour leur permettre de se réinstaller à côté de Maïkop. Et effectivement, quand on est arrivé là-bas, on a demandé à un chauffeur de taxi s'il connaissait cette histoire des Tcherkesses du Kosovo. Le gars nous a répondu aussitôt, ah, les Yougoslaves, bien sûr, c'est à Maferhabol, c'est à 10 km de Maïkop, je vous y emmène. Et un beau matin, on s'est retrouvé à frapper à la porte d'une sorte de lotissement de banlieue, parce que les Tcherkesses revenus au pays ont eu des subventions pour faire d'assez belles maisons, très proprettes, avec des petits jardins, enfin, un beau lotissement de banlieue. Et là, on a frappé à la porte de ces maisons, et puis il y a une porte qui s'est ouverte, on a dit Dobardan en serbe. Et aussitôt, on s'est mis à parler serbe et on s'est mis à parler du village à côté de Pristina et forcément des gens, des connaissances communes qu'on devait avoir parce qu'il est bien certain qu'au Kosovo, mais aussi dans le monde, tout le monde se connaît. Et arriver dans ce lotissement de banlieue improbable de Maferhabel, banlieue de Maïkop, pour retrouver des gens avec qui nous avions des connaissances communes au Kosovo, Une guerre étant passée par là-dessus, c'était juste l'occasion de faire la démonstration par A plus B qu'effectivement le monde est petit. Mais ça, c'est ce que tous les gens qui fréquentent ces rivages méditerranéens, pontiques, ces espaces ottomans ou post-ottomans savent très très bien.
Alors Sotchi, dans l'histoire très récente, beaucoup ont réussi à la placer sur une carte grâce aux Jeux Olympiques d'hiver qui s'y sont déroulés en 2014. Et à cette occasion, Laurent Gélin, les Tcherkesses aussi s'étaient invités dans l'actualité.
Oui, tout simplement parce que le lieu des Jeux Olympiques n'a pas été choisi au hasard pour Moscou. Il s'agissait d'affirmer dans l'espace la présence russe dans le Caucase en implantant le village olympique, notamment dans la vallée de Krasnoïa Poliana, qui veut dire la vallée rouge, et que les Russes appellent rouge, car selon la légende, cette vallée était remplie de coquelicots, mais que les Tcherkesses appellent rouge, puisque plus probablement, elle était remplie du sang de leurs ancêtres massacrés par les troupes russes. Donc, les Jeux
150 ans, justement, avant.
Avant, tout à fait, à la fin, autour de 1860. Donc, pour les Tcherkesses, l'implantation des Jeux Olympiques sur les lieux du massacre de leurs ancêtres était bien sûr totalement inacceptable. Et c'est cette bataille des mémoires qui s'est jouée à cette époque.
Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как бурю паруса вязать, как паруса вязать. Позвольте вас на Салин взять, ах, вас на Салин взять, и в руки мокрый шкот вам дать, и мокрый шкотик дать.
И шкотик мне отдать.
Alors pour conclure cette émission et à l'issue de votre voyage qui s'achève entre Féodossia en Crimée, Odessa en Ukraine et enfin Vilkovo, là où le Danube se jette dans la mer Noire, on a voulu revenir au bateau et au voyage avec cet extrait, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, d'une adaptation cinématographique d'un livre que vous évoquez, un livre russe, « Les voiles écarlates ». On vient d'entendre la petite Assol, fille de Lohengrin, le marin, chanter la mer avec dans les mains le bateau, le jouet que son père vient de fabriquer. Et ce livre, Les voiles écarlates, a été écrit en 1920 par Alexandre Green, un écrivain qu'on croise dans votre récit. Un écrivain voyageur russe, tour à tour, alors apprenti matelot, docker, vagabond, chercheur d'or, bûcheron, soldat, déserteur aussi. Il est peu connu du monde occidental et pourtant il est, dit-on, l'auteur le plus lu par la jeunesse russe. Et dans ce conte féerique, les voiles s'apparentent à des ailes. D'ailleurs, vous traduisez le livre comme les ailes écarlates. Vous me voyez peut-être venir, ce voyage en voilier, le long des côtes, est-ce qu'il vous a donné des ailes ?
Oui, je pense qu'il nous a rechargé en tout cas, et puis il nous a confirmé que même des régions que l'on connaissait, à savoir les Balkans, alors un peu moins le Caucase, même ces régions recelaient toujours des mystères, des couches, je dirais, sédimentaires de mémoire, d'architecture, qui se succèdent à l'infini, et en fait on peut en toute bonne conscience, continuer à arpenter ces rivages, on trouvera toujours quelque chose de nouveau. Et surtout, on aura toujours autant de plaisir, je dirais, à entendre les gens parler. Puisque comme le disait Roumise, et je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour les journalistes, pour les voyageurs, c'est avant tout de laisser parler les gens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant ce voyage, de laisser la parole à des gens finalement que personne ne vient jamais voir, qui ont perdu la parole depuis plusieurs générations. Et pour nous, c'était important de tendre l'oreille et puis de les laisser parler tout simplement.
Jean-Arnaud Derrins.
Moi, je souscris entièrement à ce que vient de dire Laurent, bien sûr, mais alors il faut que j'ajoute quelque chose. Je dirais, oui, écoutez ce que les gens ont à dire, mais aussi rêver avec eux, essayer de... Et ça, on a le droit de le faire. On a le droit, les histoires dont on ne connaît que des fragments, on a parfaitement le droit de rêver, d'essayer de les compléter.
D'entrer en féerie, comme le faisait aussi Alexandre
comme
Green.
Le faisait, c'est ce que j'allais dire, comme le faisait Alexandre Green, parce que, effectivement, tous ces rivages, ce sont des palimpsestes où des histoires, souvent tragiques, parfois heureuses aussi, sont venues se superposer, mais ce sont aussi des endroits où les gens ont beaucoup rêvé, ont beaucoup imaginé, donc il est parfaitement légitime de venir ajouter nos rêves à ceux de tous ceux qui ont vécu sur ces littoraux et qui y vivent toujours.
Jean-Arnaud Derrins, Laurent Gélin, merci.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Là où se mêlent les eaux, des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins, paru aux éditions La Découverte, dont on est ravis qu'elle se mette, cette maison d'édition, au récit de voyage. Auditeurs, voyageurs, allez aussi sur l'internet, du côté du Courrier des Balkans, un formidable portail indépendant d'actualité sur la région. Abonnez-vous, la presse en vie. Merci à France Bleu, Brett Zizel, pour ce précieux duplex, et merci enfin à Lina, pour son archive de Théo Angelopoulos, France Culture 2009. Laure Allary, Céline Develay, les Mazurelles, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.